Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le monde célèbre ce 3 mai le 100e anniversaire de la liberté de la presse. En RDC, cette journée est organisée autour du thème national, la liberté d'expression. À l'épreuve de la situation sécuritaire en RDC, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Cette célébration intervient des mois après la promulgation par le chef de l'État de la nouvelle loi sur la presse. D'après le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, cette loi marque les pas de la marche vers la stabilité médiatique et aussi conformer le secteur des médias à l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans son message, à cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies rappelle que la liberté de la presse est le fondement de la démocratie et de la justice. Qu'est-ce que vous pensez de la célébration de cette journée de la liberté de la presse et que peut-être la contribution de la nouvelle loi sur la presse à l'épanouissement de la liberté de la presse en RDC? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir dans cette émission. Et nous recevons Gaby Kouba, il est président de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC en sigle. Bonsoir, monsieur Gaby Kouba.
Bonsoir.
Bastien Debaba Loufira, il est directeur des programmes de synergie des médias pour l'Union des forces CIMUF, maison des presse et secrétaire adjoint de l'UNPC Sud Kivu. Bonsoir Bastien Debaba Loufira. Bastien Debaba Loufira, est-ce que vous êtes là? Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, il est aussi spécialiste des droits de la presse et de la lutte pour la dépénalisation des délits de la presse. Bonsoir Maître Charles Mouchizi.
Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Nous l'avons dit au sommaire, le monde célèbre ce mercredi 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse. À Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a interpellé les journalistes sur ces fléaux qui menacent notre société à l'heure du numérique. Il s'agit des fake news ou fausses informations. On écoute Félix Tshisekedi dans cet extrait sélectionné par Élisée Chikota.
J'attire votre attention sur la prolifération des informations erronées et non vérifiées, autrement appelé fake news ou infox, source de nombreux mots M-A-U-X, dans nos sociétés contemporaines. Ceci constitue pour nous un défi commun à relever et je vous invite à jouer votre rôle de paravent et d'antidote contre ces fléaux qui menacent notre société à l'heure du numérique. Je vous rappelle une fois de plus que l'exercice de la liberté de la presse vous confère des droits auxquels sont toutefois assortis des devoirs. Cette liberté doit s'exercer dans les limites des prescrits des lois, du respect de la vie privée et des bonnes mœurs, ainsi que des impératifs liés à la sécurité du pays.
En RDC, cette célébration de la Journée internationale de la presse coïncide avec la promulgation par le chef de l'État de la nouvelle loi sur la presse. Lors des États généraux de la communication et des médias, le président Félix Tshisekedi recommandait plus de stabilité médiatique en RDC. Selon le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, la nouvelle loi marque les premiers pas vers cette stabilité. N'est plus journaliste et tout celui qui le voudra, la loi renforce ainsi les conditions d'accès à la profession. Jacques-Yves Molima nous parle de la nouvelle loi sur la presse.
L'article 3 définit qui est journaliste professionnel à son point 11 et qui est professionnel des médias au point 20. Par ailleurs, au regard de l'article 42, toute personne physique ou morale peut créer une entreprise de presse. Encore faudra-t-il qu'il respecte la loi qui prévoit plusieurs conditions à son article 43. Et le professeur Claude Moukeba de s'en féliciter tout en mettant l'État devant ses responsabilités.
Quand on renforce les conditions d'accès à la profession, logiquement, on va évacuer ce qu'on peut considérer comme des rébus. Ceux qui n'ont pas qualité ne peuvent pas venir, on aura quand même résolu un petit problème en termes de salubrité. quelle est, au-delà du texte qui est présenté, la capacité de l'État ou du pouvoir public de contraindre les gens à le faire dans un environnement où les médias sont créés tous les jours et pas à n'importe qui.
Quant à ce qui concerne la question de la dépénalisation des délits de presse, la force est restée à la loi. Pour Cyril Milandou, journaliste à Top Congo, la responsabilité incombe aux journalistes.
Quand on lit la presse en ligne, la presse écrite, l'audiovisuel, il y a toujours des dérapages. Je pense que nous devons être professionnels en respectant les règles de notre métier.
ELC SAC est désormais là pour tout réguler.
Merci à vous, Jacques-Yves Molima. Gabi Kouba, je rappelle que vous êtes président de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC en sigle. Qu'est-ce que vous pensez de la célébration de cette journée internationale de la liberté de la presse?
Bon, merci beaucoup pour cette question. C'est une journée qui a été instaurée par l'UNESCO depuis la déclaration de Maputo en 1993. Aujourd'hui, nous avons célébré le 30e anniversaire. Mais c'était aussi l'occasion pour nous de faire l'évaluation de ce que nous avons entamé comme travail lors des États généraux de la communication et médias pour des réformes en ce qui concerne le secteur qui est le nôtre. Et à l'issue des États généraux, vous vous rappelez que le souhait de beaucoup d'entre nous était la modification de la loi de 1996 qui est devenue obsolète, dont certaines dispositions étaient devenues obsolètes. Et moi-même, votre humble serviteur, c'est moi qui ai dirigé la commission des textes et qui était une commission très difficile lors des États généraux de la communication média parce que le débat était houleux sur plusieurs dispositions. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée. Et je salue Maître Charles Mouchizi, qui intervient dans cette émission aussi, qui nous a beaucoup accompagnés, lui en tant que juriste, dans la révision de cette loi, sans oublier aussi tous les autres qui ont contribué pour l'avènement de la nouvelle loi. Donc c'est une bonne chose parce que la loi nous accorde aujourd'hui plus de liberté. Et avant, par exemple, il y avait les emprisonnements automatiques des journalistes. Avec la nouvelle loi, ça ne sera plus le cas parce que le droit de réponse peut régler un certain nombre de problèmes. C'est vrai que nous n'avons pas obtenu la dépénalisation totale telle que beaucoup l'ont souhaité, même si moi, à titre individuel, je n'étais pas assez ouvert pour la dépénalisation complète, mais je me suis incliné face à la volonté de l'ensemble des participants qui estimaient qu'il fallait une dépénalisation totale. Donc, à défaut d'obtenir la dépénalisation complète, nous n'avons obtenu qu'une dépénalisation partielle. Mais cela n'est pas le problème. Donc le problème, comme l'a dit aussi notre confrère Cyril Milandou, il faudra que les journalistes soient plus responsables, au-delà de la liberté. Parce que vous avez évoqué le thème de la journée aujourd'hui, qui est liberté d'expression comme moteur de tous les droits de l'homme. Mais au niveau national, nous l'avons adapté au regard du contexte sécuritaire et du nouveau cadre légal qui nous régit aujourd'hui.
Donc,
la journée d'aujourd'hui, oui, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée d'évaluation, une journée de réflexion pour voir la marche que nous avions amorcée, où sommes-nous et où allons-nous exactement. Voilà ce que je peux dire pour la célébration de cette journée, au-delà du caractère festif que certains d'entre nous peuvent lui comparer.
Justement, au sujet de cette nouvelle loi sur la presse en RDC, parce que vous avez commencé, n'est-ce pas, à en parler, quelles sont les innovations, quelles sont les réformes, n'est-ce pas, que cette loi apporte?
Ah, les réformes, le droit renforce la liberté. Ça, c'est la première réforme. C'est vrai que dans l'ancienne loi, ça existait, mais la loi était rédigée dans un contexte où les pays entamaient la marche vers la démocratie. Et la deuxième, par exemple, innovation que la loi apporte, c'est cette question de l'emprisonnement des journalistes. Au lieu de l'emprisonnement, si le journaliste accepte d'accorder le droit de réponse, parce qu'avant même le droit de réponse, l'emprisonnement était automatique. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, ce n'est plus le cas. La loi a consacré des dispositions sur le fonctionnement des médias en ligne. Voilà l'une des innovations majeures. Parce que quand la loi de 1996 avait été promulguée, les médias en ligne n'existaient pas dans notre pays. Aujourd'hui, même les rédactions des médias traditionnels ont une rédaction en ligne, notamment votre radio, la radio Okapi, qui a aujourd'hui toute une équipe qui travaille en ligne. Et tous les médias aujourd'hui ont des desks en ligne. Tout comme il y a des médias qui sont proprement des médias en ligne, il y a des chaînes de télévision, et il y a aussi la presse écrite qui fonctionne en ligne. Donc c'est une innovation aussi majeure parce que la loi a tenu compte de l'évolution de la société et des innovations technologiques intervenues. Autre innovation que la loi apporte, la question sur la viabilité économique des médias. Et vous voyez que dans la plupart des cas, la plupart de nos rédactions ne sont pas viables. On s'est penché pour que les médias soient viables. Une autre innovation, l'existence des médias communautaires et associatifs. Le statut, c'est vrai qu'il peut y avoir un arrêté ou bien une autre disposition complémentaire. Mais fondamentalement, la loi a abordé cette question des médias communautaires qui n'était pas prise en compte dans la loi de 1996. Le statut, par exemple, de la définition même du journaliste, qui l'est et qui ne l'est pas. Nous avons estimé qu'il faut verrouiller l'accès au métier, comme à l'Ordre national des médecins, comme à l'Ordre national des pharmaciens, comme à l'Ordre national des avocats, chez les architectes, et ainsi de suite. Il faut que nous ayons le même profil. C'est vrai qu'il faut, la loi a prévu qu'il faut avoir un diplôme d'une école de journalisme reconnue par l'État. Mais à défaut d'avoir ce diplôme, vous pouvez avoir, parce que le journalisme est un métier ouvert. D'ailleurs, ceux qui l'ont inventé ne sont pas passés par les académies de journalisme. Le journalisme a été inventé par les hommes de lettres qui étaient jadis des écrivains. Et de là, bon, c'est un métier ouvert. Donc, un philosophe, un politologue peut devenir un bon journaliste, mais on a renforcé les conditions d'accès au métier. C'est une question parce que les gens pensent que le métier n'est pas ouvert. Chacun avec son laptop aujourd'hui, avec son téléphone portable ou la connexion Internet, peut devenir journaliste. Ce n'est pas si facile qu'on le croit. Parce que si c'était facile, il n'y aurait pas de dégâts aujourd'hui. Parce qu'un simple article, une seule émission, l'omission par exemple d'une virgule ou d'un point dans une phrase et dans un article, peut causer d'énormes dégâts pour la société. Voilà les quelques innovations, brièvement, parce qu'il y en a assez, oui. Mais les innovations que la loi apporte.
Et au sujet de ces innovations, vous parlez notamment de la viabilité économique des médias. Il est de notoriété publique que les médias congolais ou la presse congolaise, n'est-ce pas, évoluent dans un environnement économique difficile. Comment peut-on, dans un environnement économique difficile où on sait que le pays n'a pas encore sa propre économie, où on sait que l'économie de ces pays, c'est une économie extravertie, comment dans un tel environnement peut-on parler de la viabilité économique des médias?
Oui, la question a été largement débattue. C'est vrai que pour avoir des médias solides, il faudra que les contextes économiques soient réduisants. Ce qui n'est pas le cas, comme vous l'avez dit, pour la République démocratique du Congo, nous n'avons pas une économie solide et stable. Donc cela a un impact très négatif sur le fonctionnement des médias. Mais il faut rappeler une chose. La majorité des médias que vous avez aujourd'hui n'ont pas été créés ou ne sont pas créés par les hommes d'affaires qui ont la vocation de créer de la richesse. Ce sont des médias qui sont créés par les acteurs politiques dans la plupart des cas. Et lorsque vous avez plus de 90% des médias qui dépendent des acteurs politiques, parce que les politiciens, il a son agenda. Ce n'est pas pour faire du média une entreprise de presse, mais c'est plutôt, ils considèrent les médias comme des organes de propagande pour la cause. Dans ces cas-là, on se penche. Nous, au niveau du GMPC, parmi les recommandations que nous avions apportées pour la viabilité économique des médias, on a dit qu'il fallait avoir un minimum pour créer une entreprise de presse. Et nous, dans les congrès que nous envisageons dans un vrai avenir, c'est-à-dire avant même que le GMPC ne délivre la carte de presse, on exige aux journalistes de présenter les contrats de travail certifiés par l'Inspection Générale du Travail. Parce que la majorité de nos confrères travaillent presque dans les secteurs informels. Donc, au lieu que les médias payent les journalistes, ce sont des journalistes qui doivent ramener l'argent dans les rédactions. Ce qui n'est pas normal. Dès lors que vous avez pris l'initiative de créer votre média, cela veut dire que vous avez un capital, vous avez des équipements, vous avez un personnel qualifié, vous avez des installations. Donc, la viabilité économique des médias, c'est dans ce sens que nous l'entrevoyons.
Merci. On espère que tout cela n'est pas un vœu pieux. On espère que ça va se concrétiser.
Ce n'est pas un vœu pieux. Oui, ce n'est pas un vœu pieux parce qu'à l'issue des États généraux, conformément aux autres forums qui sont organisés au Congo, à la fin du forum, bon, les recommandations sont dans les tiroirs. Mais le ministre de la Communication, M. Mouyaya, a mis en place un comité de suivi sur les 80 résolutions issues des États généraux de la Communication. Nous avons notre tableau de bord et on s'est réunis. On a des sessions régulièrement où l'on regarde quelles sont les recommandations appliquées et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui bloque.
Merci, Patient Deba Baloufira, directeur des programmes des synergies des médias pour l'Union des forces CIMIF en sigle, Maison de la Presse, secrétaire adjoint de l'UNPC Sud Kivu. Qu'est-ce vous inspire la célébration de cette journée internationale de la liberté de la presse?
Cette célébration nous inspire beaucoup. Je pense qu'elle vient nous rappeler la nécessité pour nous, journalistes, le rôle que nous sommes appelés à jouer pour l'émergence et le progrès de nos communautés. Cette journée également vient nous interpeller par rapport à notre responsabilité sociale. Le fait pour nous de savoir que nous avons une responsabilité vis-à-vis de la communauté de par notre travail. Cette journée également vient nous rappeler également les soucis de faire un état des lieux de ces 30 ans depuis que l'ONU a jugé indispensable de consacrer une journée dédiée à la liberté de la presse, de faire une évaluation par rapport au travail des journalistes et des médias à travers le pays. Cette journée également nous interpelle par rapport à notre manière de collaborer avec les différentes parties prenantes qui concourent à la promotion de la liberté de la presse, notamment, je parle des autorités politico-administratives, les autres acteurs de la société civile qui interagissent à travers nos programmes. Cette journée également vient nous interpeller sur notre responsabilité à jouer un rôle dans la viabilisation de la noble profession que nous avions choisie en abandonnant les autres professions. La journée également aujourd'hui nous interpelle sur la lutte que nous sommes censés mener en tant que professionnels des médias pour défendre notre droit à la liberté de la presse.
S'il faut parler de la nouvelle loi sur la presse en RDC, vous qui pratiquez ce métier de journaliste dans des zones où sévissent des conflits armés, quels sont les droits que cette nouvelle loi vous assure pour prester comme il se doit?
Bien évidemment, il y a certes des innovations. Je salue d'abord les co-débatteurs qui sont là. C'est un honneur d'être avec le président Gaby Touba et les spécialistes des droits de la presse. Ce que je voulais dire, d'abord, le fait pour la loi de clarifier les statuts du journaliste et les conditions d'accès. Dans la loi de 1996 portant modalités d'élection de la liberté de la presse et de l'ordonnance de 1991 sur les statuts du journaliste zaïrois à l'époque, il y avait des articles communs qui disaient « Par professionnel des médias, il faut attendre toute personne qui se voue régulièrement à la collecte, au traitement et à la diffusion des informations et qui tire les revenus de sa vie dans cette profession. » Mais les lois précédentes ne tenaient pas compte de l'aspect lié au diplôme, ne tenaient pas également compte par rapport à la formation du journaliste. Certes, la loi de 80 en a parlé, mais en tout cas, ce n'était pas de manière précise. Ça, c'est d'abord une innovation. La deuxième innovation, c'est le fait qu'on décriait depuis très longtemps la reconnaissance légale des médias dits confessionnels, associatifs ou communautaires. Le fait pour le gouvernement congolais de reconnaître à travers la législation sur la presse, c'est déjà une innovation. Un autre aspect d'innovation, c'est le fait que dans nos provinces où on est réputé des provinces opérationnelles, où il y a des opérations Sokola, où il y a chaque fois des affrontements, on avait des soucis parce que c'est toute autorité qui pouvait se permettre de fermer une radio. Et je pense que le fait pour la loi de prendre en compte la question liée au droit de réponse, en tout cas, vient en quelque sorte atténuer les problèmes qu'on pouvait avoir avec des éventuels prédateurs de la liberté de la presse que nous connaissons dans nos milieux. Bien que nous n'avons pas obtenu, comme disait le président, la dépénalisation totale des délits de presse. L'autre avantage, c'est par rapport au fait que la loi vient consacrer beaucoup de pouvoirs au CSAC. On avait l'impression qu'avec la loi de 1996, d'abord, qui ne tenait pas compte de l'organe de régulation, et même on avait l'impression que les autorités politico-administratives dans les provinces bafouaient les prérogatives reconnues au CSAC, cette loi est venue marteler davantage les prérogatives qu'on reconnaît au CSAC. Mais aussi, c'est une loi qui est venue dissiper des doutes par rapport aux différentes autorités au niveau des provinces, des territoires et des villes et territoires qui s'imaginaient avoir de l'autorité sur les médias. Je vous dis que nous souffrons ici. À titre d'exemple, il y a des médias au sud qui vous, auxquels on exige de payer 15 000 dollars après 4 mois d'ouverture ou de démarche des activités de diffusion des programmes. Il y a des médias qui ont été menacés par les ministres qui est en charge les médias au sud qui vous. Il vient d'être changé avec la nouvelle nomination du gouvernement provincial, qui menaçait de prendre des dispositions de fermeture de certains médias dits de formation en ligne. Tout simplement parce qu'il fallait que ces médias déposent beaucoup de documents à la division de l'information. Il y a des médias qui sont incapables aujourd'hui de payer des redevances, des frais d'intégration qui sont très exorbitants. Je crois que pour les faiblesses, par rapport aux forces, je viens de les évoquer, il faudrait que cette loi tienne compte de certaines exonérations par rapport à nos médias qui sont dans les zones reculées.
Merci,
où les gens ont besoin des informations.
Merci, Patient Debaba Lofira. Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, vous êtes spécialiste des droits de la presse et de la lutte pour la dépénalisation des délits des presses. Que pensez-vous de la célébration de cette journée internationale de la presse, Maître Charles Mouchizi?
D'abord, je crois que c'est un mémorial assez important qui nous rappelle les efforts qu'ont fournis un certain nombre de défenseurs des droits de l'homme et les professionnels des médias eux-mêmes pour défendre le droit d'accès à l'information pour tous les peuples du monde. Mais ça nous rappelle surtout l'engagement que nous devons prendre chaque jour pour améliorer ce contexte-là. Loin de toute théâtralisation en termes de discours politiques, d'échanges à travers des salles, je crois que ça devait être le moment où on organise des activités pour faire davantage connaître à la population ce que c'est la presse, à quoi sert la presse, pourquoi il faut protéger la liberté de la presse. Pourquoi il faut travailler chaque fois à une meilleure qualité de la presse? Ça ne devrait pas être des occasions pour faire des bilans macabres, ni pour se flageller, s'auto-flageller, moins encore pour recevoir des flèches venant des politiques, parce que il se trouve qu'ils sont généralement, qui sont le plus souvent la cible des analyses journalistiques, pas seulement en République démocratique du Congo, mais à travers le monde entier. Ça devait effectivement constituer un moment pour faire connaître le travail du journaliste, pour faire connaître le contenu de ce que c'est la liberté de la presse, pour faire connaître la valeur de la liberté de la presse et pour les autorités à prendre des engagements beaucoup plus sérieux pour défendre et le journaliste et sa profession, exactement comme on défendrait un enseignant, exactement comme on défendrait un magistrat, en valorisant son travail, exactement comme on défendrait un avocat, en donnant de la valeur à son travail, etc. Et donc, j'ai senti dans la plupart d'interventions une sorte de bilan, on se limite là, mais il n'y a aucune proaction, aucune idée qui va dans le sens des initiatives innovantes pour que les gens connaissent ce qu'était le journaliste véritablement, pour que les gens connaissent sa profession et l'importance de la profession dans la construction d'une démocratie véritable, dans le développement, dans la lutte contre les valeurs qui endeuillent les communautés, notamment la criminalité évoluante, les fraudes, les concussions, les détournements, etc., qui sont effectivement des faits de société et qui doivent être dénoncés par ceux qui ont cette profession-là. Et donc, aujourd'hui, qu'on en revienne à ce concept de salubrité publique, je pressens qu'il y a plutôt une pesanteur qui assaille le journaliste et sa profession et qui l'enjoint plus à des obligations qu'à des droits. Il est bien beau de dire qu'on a bien besoin d'une salubrité, mais de quelle salubrité on a besoin? On a besoin d'une loi salubre, on a besoin d'un environnement salubre, on a besoin d'un budget d'appui aux médias qui soit salubre. On n'a pas seulement besoin d'exiger aux journalistes de respecter sa déontologie et son éthique. On a besoin d'une justice aussi salubre qui comprend les subtilités d'une presse libre et indépendante et qui comprend le besoin de mettre de l'équilibre dans l'instruction des cas qui lui sont soumis et qui mettent en cause les journalistes ou les médias. On a besoin d'une salubrité dans la tête des Congolais qui doivent respecter le journaliste autant qu'ils respectent l'avocat, le magistrat et le médecin, chacun faisant son rôle, jouant son rôle dans une société démocratique, chacun contribuant au développement du pays par la production, la génération des recettes et des revenus qui viennent renflouer les caisses publiques de l'État.
Maître Charles Moussizi, pourtant il est dit que cette nouvelle loi accorde beaucoup plus de privilèges, beaucoup plus, n'est-ce pas, d'avantages aux journalistes comparativement à la loi de 1996.
Seulement dans une certaine mesure, parce que lorsque vous lisez son article 43, vous êtes très rapidement étonné du fait que les infractions de presse commises par voie des médias en ligne, plus particulièrement en ligne, sont soumises au régime de l'article 74 de la loi qui vient d'être abrogée. J'imagine que ça, c'est un oubli qui a été inséré par notamment le gouvernement, par mégarde, sans connaître la logique qui a été imprimée à ce texte par ceux qui y ont travaillé, notamment moi et ceux qui sont en train d'intervenir là. Mais pour ce qui est des médias en ligne, c'est véritablement un recul parce que désormais, les médias en ligne, chaque fois qu'ils commettront des infractions, chaque fois que les journalistes en ligne commettront des infractions, ils seront poursuivis exactement comme le prévoit le code pénal livre 2 et même le code pénal militaire si le magistrat parvient à qualifier ces faits comme des infractions de caractère militaire.
Oui, vous avez beaucoup lutté pour les droits de la presse et pour la dépénalisation des délits de presse. Nous avons suivi Gabi Kouba et Patient Lofira qui rappellent que dans la nouvelle loi, on n'a pas pu obtenir une dépénalisation totale, mais plutôt une dépénalisation partielle. Maître Moussizi, on sait que vous avez travaillé aussi, n'est-ce pas, sur cette nouvelle loi. Pourquoi une dépénalisation partielle et pas une dépénalisation totale?
Entre le vœu et ce qui est possible, il faut toujours faire la différence. En fait, on ne peut pas demander au législateur pourquoi il a fait telle option ou telle autre. Il est de principe juridique que lorsque le législateur veut ceci, eh ben, il le fait de cette manière-là. Telle a été la volonté du législateur, nous ne pouvons que nous courber. Le législateur étant notre représentant à nous tous, ça veut dire le pouvoir législatif, nous ne pouvons pas lui contester le droit de faire des choix et des options qu'il considère comme les meilleures par rapport à un contexte particulier dans l'évolution d'une communauté qui est notamment la nôtre.
Merci. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui sont en train de donner leur point de vue par rapport à ce sujet. Et nous allons écouter pour vous, Gabi Kouba, nous allons écouter l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa et vous allez réagir, n'est-ce pas, à sa réflexion.
C'est Nestor Socrate Mepou depuis la ville, la province de Kinshasa. Pour moi, la liberté de la presse devrait être un cheval de bataille pour un pays qui se veut démocratique comme la RDC. Toutefois, le gouvernement congolais, à travers cette nouvelle loi, devra lutter beaucoup plus pour la sécurité des journalistes, surtout en ces temps de conflits armés dont la RDC est victime de la part du Rwanda. Et aussi et surtout, faciliter les journalistes à accéder aux informations en temps réel qu'ils se doivent. Cependant, les journalistes devront être neutres dans leur travail, bien sûr, les traitements et la diffusion des informations, éviter d'être à la sauce de quelques personnes et travailler dans toute transparence en vue de promouvoir cette noble profession.
Gabi Kouba, votre réaction?
Ben, tout le coup, je pense que c'est une contribution de cet auditeur. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. La liberté, oui, nous est garantie par la loi, mais nous devons encore faire plus d'efforts, comme il est dit. Donc, liberté, mais aussi responsabilité. La liberté et la responsabilité forment un couple indissociable en journalisme. Mais je voulais plutôt rebondir sur quelque chose qui a été dit par Maître Charles Moussizi concernant la connaissance de la loi. Et il est aussi membre du comité de suivi des États généraux de la communication et médias, et il a prévu une campagne de vulgarisation de cette loi, même auprès des magistrats, parce qu'il y a beaucoup de présenteurs. Ce n'est pas évident que tout le monde ait la connaissance de la nouvelle loi, mais comme les juristes le disent, nul n'est censé ignorer la loi, autant nous, professionnels des médias, nous devons connaître la loi, autant ceux qui ont la justice dans leurs attributions aussi, et la maîtrise de la loi. Parce qu'il y a des présenteurs qui existent des parties d'autres. Mais concernant l'éducation, lorsque M. Charles dit, ça ne peut pas être des actions folkloriques. Non, ce ne sont pas des actions folkloriques ou festives seulement. Parce que le problème d'éducation, il est plus global qu'on ne le pense. ce n'est pas seulement dans ce cadre de la loi. Et je suis content que dans les universités, par exemple, il existe des cours d'éducation aux médias, même ceux qui ne sont pas dans la filière des communications ou de journalisme. Mais ça devrait commencer à partir de l'école primaire qu'on intériorise. À quoi sert la presse? Pourquoi la presse? Quelles sont les attributions de la presse? Et cela entre dans un programme d'éducation plus global qu'une activité sectorielle ou des activités sectorielles telles que nous organisons avec le ministère dans le secteur qui est le nôtre. Donc, c'est une question un peu plus globale qui concerne l'éducation d'une façon générale. Peut-être qu'il faut y penser dans les réformes sur les systèmes éducatifs, comment inscrire les cours d'éducation aux médias depuis l'école primaire, l'école secondaire et jusqu'à l'université, même pour ceux qui ne font pas des filières de journalisme ou de communication. Il faut qu'ils apprennent cela. Parce qu'une presse libre contribue également à la vitalité démocratique et l'évolution de la société.
Merci.
Liberté d'opinion. Mais moi, je ne voudrais pas, en tout cas, que la liberté soit illimitée. Et d'ailleurs, tous ces points avec Charles Mouchizi, parce que lui, c'est un avocat, il défend toujours la cause de son client, on était parfaitement opposés. Moi, d'ailleurs, qui suis le président de la corporation, j'étais totalement opposé à la dépénalisation total au regard des dérapages que nous observons. Et l'État qui gère l'espace public ne peut pas se permettre d'accorder la liberté absolue à tous ceux qui utilisent les médias. Un média est aussi une arme et il peut faire d'énormes dégâts comme les armes utilisées par des militaires. Donc ça ne peut pas être à la portée de tout le monde. Il faudra les dispositions qui encadrent l'exercice du métier et cette liberté d'expression et d'opinion.
D'où la dépénalisation partielle et pas totale, hein, c'est ça hein?
Bon, la loi en réalité ne parle pas de la dépénalisation partielle, mais entre les lignes, c'est ce qui est dit. Parce que nous qui étions dans les États généraux, lors de la conception de cette loi, en filigrane, c'est ce que cela veut dire. Nous avions plaidé pour la dépénalisation totale, mais à défaut d'obtenir cette dépénalisation totale, il y a une sorte de dépénalisation que moi j'appelle, que je qualifie de partielle.
Merci. Patient de Baba Lofira, il y a un auditeur qui nous écrit depuis Goma pour vous. Hein. Il dit « Liberté de la presse est une garantie pour une bonne démocratie, mais cette liberté ne devrait pas entraver les libertés fondamentales, surtout en matière de sécurité. » En RDC, il fallait d'abord une formation pour apprendre aux tenants du micro l'étendue de leurs droits et devoirs qui leur sont imposés malheureusement au nom de la liberté de la presse. Qu'est-ce que nous ne voyons pas jusqu'à porter atteinte à la sécurité de l'État et aux droits de l'honneur et la dignité personnelle? Partant de tout ce qui précède, le principe de la liberté de la presse ne devrait pas être d'application dans les pays à jeune démocratie. Patient de Baba Lofira.
Bon, je salue d'abord cet auditeur de Goma qui a pensé à nous interpeller par rapport à cela. C'est pourquoi j'ai dit dans mes propos introductifs que cette journée est venue nous interpeller par rapport à notre responsabilité sociale. Cette responsabilité sociale relève tout simplement que nous devons tenir compte des conséquences qui peuvent résulter de par notre travail, de par les informations que nous communiquons au public et à la communauté. Mais toutefois, cette liberté d'informer, cette liberté de la presse ne veut pas dire du mensonge. Et c'est ça le problème avec les autorités politico-administratives, surtout les autorités militaires, qui pensent que tout ce qui concerne les militaires, il ne faudrait pas en parler. Il y a des choses qui relèvent réellement du secret défense, et ça, il faudrait que ça soit dit clairement. Et c'est connu, ça et ça, il y a des questions qui relèvent des questions de défense. Mais il y a d'autres questions, d'autres aspects, qui nécessitent que le public soit informé, par exemple. Je peux donner l'exemple. Il y a des tournements des salaires des militaires. Vous voulez que les gens n'en parlent pas? Récemment, les gens viennent de porter à la connaissance de la nation les problèmes qui se posent dans le fichier de paye. Et c'est dans tous les secteurs, y compris dans le secteur de la sécurité et de la défense. Vous voulez que les gens n'en parlent pas? Pas tout simplement, ça concerne les militaires. Non. Nous devons accéder aux informations. Certainement, nous devons aussi être responsables, sachant que le pays est en guerre, il y a des choses que nous ne pouvons pas diffuser pour démoraliser les troupes sur le terrain. Parce que tout simplement, cela va nuire, par exemple, va porter atteinte à l'intégrité nationale. Mais curieusement, qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes interpellés? Je parle de notre contexte à l'aide de la RDC. Lorsque nous sommes interpellés, on vous dit sûreté de l'État. Cette infraction de sûreté de l'État, quand vous le voyez, quand vous l'enlisez dans la nationale, nationale juridique, quand vous nationale juridique, vous trouverez que c'est du fourre-tout. Il y a tout. Quels sont les éléments auxquels il faut se baser pour qualifier la sérénité de l'État? C'est beaucoup d'histoires. Donc je pense que cette lutte devra continuer pour clarifier des choses. La liberté de la presse devra continuer, nous devons la défendre. Et cette lutte, en tout cas, ce que nous venons d'obtenir aujourd'hui dans cette loi, c'est le résultat d'une lutte acharnée de plusieurs parties prenantes. Les journalistes, c'est pourquoi nous devons nous en féliciter, nous remercier. Remercier également le gouvernement qui a eu le courage et en tout cas le souci de faire avancer la presse.
Merci.
Remercier les partenaires comme GED, de l'INPC et d'autres partenaires qui appuient le secteur des médias au sud qui vous, tels que les partenaires internationaux
Merci.
Et au niveau des journalistes locaux.
Merci Maître Charles Moufizi. Vous allez réagir aussi à la réflexion des auditeurs qui nous appellent depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Maître depuis Kisangani, province de la Tchopo. À mon avis, la célébration de cette journée cette fois-ci semble être très spéciale par rapport aux précédentes. Cette spécialité s'explique par l'intervention de la loi servant de guide pour les acteurs directement impliqués dans le secteur. C'est cette loi qui doit permettre d'une part aux acteurs de la presse d'éviter des avis professionnels au détriment des tiers, ainsi que les accusations gratuites en charge des pouvoirs publics par rapport à leurs droits liés à la liberté de la presse. D'autre part, les pouvoirs publics doivent éviter l'excès d'autorité et agir du pouvoir sur les acteurs de la presse, comme cela se passe en matière de manifestations publiques où les autorités imposent le régime d'autorisation, contrairement à la loi qui prévoit le régime d'information.
Maître Charles Moufizi.
Je crois que c'est des contributions très très importantes à ce débat. Mais une fois encore, il faut fustiger cette manière pour le gouvernement, et désolé de le dire comme ça, du chef de l'État aussi, de donner une liberté par une main et d'en soustraire quelques éléments essentiels par une autre, notamment. Lorsqu'on reproche aux journalistes de publier les informations qui ne sont pas correctes ou qui ne sont pas complètes, il faut aussi reprocher à l'État, au pouvoir public, de ne pas pouvoir permettre aux journalistes d'accéder aux sources publiques de l'information. Et donc, lorsque un journaliste veut mener une analyse qui touche aux finances publiques, il a bien le droit de consulter les archives ou même les documents actuels de la Banque centrale, du ministère de Finances ou des services spécialisés du ministère de Finances, etc. Mais lorsqu'il ne peut pas accéder à la DGRAD, il ne peut pas accéder à la DGI, il ne peut pas accéder à la DGDA, il ne peut pas accéder à la Banque centrale, il ne peut pas accéder au ministère des Finances, comment voulez-vous qu'il puisse publier des informations qui puissent être formatives et réellement informatives dans le cadre de la fameuse salubrité publique?
Mais Charles Moufizi, il me semble que cette question d'accès à l'information publique a été réglée à travers cette nouvelle loi.
Non, absolument pas. Absolument pas. Il y a un projet de loi qui fait déjà 4 ans en train de circuler entre les deux chambres du Parlement et la présidence de la République. Le projet de loi d'accès à l'information publique, aux sources d'information publique, aux sources publiques de l'information plutôt, et qui n'a toujours pas été achevé et qui n'a pas connu son bon achèvement. La loi qui a été promulguée sous la forme d'ordonnance loi par le chef de l'État et ratifiée par le Parlement, c'est une loi cadre sur l'exercice de la liberté de la presse, tenant compte de tout ce qui est organe de presse, de tout ce qui est à modalité d'exercice de la liberté de la presse, de tout ce dont la presse a particulièrement besoin pour fonctionner, pour être créée, fonctionner harmonieusement, conformément aux autres lois aussi auxquelles elle fait allusion, le code du travail, le droit commercial, dans l'ensemble on va parler du droit OADA, etc. Mais le pouvoir pour le journaliste ou pour n'importe quel citoyen qui a besoin dans le cadre de sa recherche d'accéder aux sources publiques d'information n'y est absolument pas. Absolument pas.
Merci. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous allons conclure. Gabi Kouba, président de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC en sigle, que peut-être la contribution de la nouvelle loi sur la presse congolaise à l'épanouissement de la liberté de la presse en RDC?
Merci beaucoup. Je l'ai dit dès le départ, la contribution est énorme, mais le chemin à parcourir est encore long. Et d'ailleurs, vous parlez de l'accès à l'information, mes interlocuteurs l'ont aussi dit, nous n'allons pas aliéner notre liberté. Nous irons toujours chercher l'information et la vraie information. Donc, nous ne voulons pas des restrictions au nom d'une quelconque contexte qui justifierait la rétention de l'information. Je prends aujourd'hui, c'est vrai que les Kivu, les Nord-Kivu et l'Ituri sont sous siège et nous sommes en guerre aujourd'hui dans une partie du territoire national. Mais si un journaliste apprend que les militaires qui sont au front, tout ça, leur soldat a été détourné ou bien la ration alimentaire n'est pas arrivée, cela n'entre pas dans le cadre du découragement de l'armée. C'est inconcevable qu'un journaliste qui révèle l'information, parce que nous aussi, on apporte notre contribution à l'édifice. Lorsque les militaires ne sont pas par exemple bien traités, nous devons le dire et nous n'allons pas transiger sur la vérité de l'information, sur la véracité des informations. On ne peut pas dire non, ça c'est un secret de défense, pendant que on a détourné, par exemple, la santé des militaires ou bien la ration alimentaire. Non, sur ce point-là, nous n'allons pas transiger. Merci. Et la liberté est une quête, est un combat perpétuel et permanent. Donc il ne s'arrête pas seulement avec la loi.
Merci. Patient Debaba Lofira, directeur des programmes de synergie des médias pour l'Union des forces CIMUF en sigle, maison de la presse et secrétaire adjoint de l'UNPC Sud Kivu. Pour vous aussi, que peut-être la contribution de la nouvelle loi sur la presse congolaise à l'épanouissement de la liberté de la presse dans ces pays en RDC?
Je pense que la contribution elle est énorme et elle a tenu certes compte de plusieurs recommandations formulées aux États généraux de la communication, sauf que en tout cas le comité de suivi devra faire un effort pour que l'ensemble des recommandations soient prises en compte. Sinon, il faudrait que cette lutte continue parce qu'il faudrait qu'elle continue parce qu'elle est indispensable. Et notre aspect, je voulais relever sur le fait que parmi les faiblesses que j'ai oublié de mentionner, si vous lisez l'article 89 et 113, vous rendrez compte que la loi oblige aux médias d'information en ligne de donner, de communiquer les adresses de leurs fournisseurs d'accès à Internet, ce qui n'est pas le cas. De manière pratique ici, par exemple, à l'est de la RDC, la plupart des fournisseurs sont à l'étranger, notamment dans des pays voisins, et ce qui pourrait causer un problème, on suppose que c'est en quelque sorte inatteinte, ça pourrait vraiment être aussi inatteinte à la liberté de la presse, parce que tout simplement, ça pourrait restreindre la possibilité pour ces médias de continuer. Je voulais conclure en disant ceci, c'est bien qu'on fait que les activités de vulgarisation de la dite loi doivent se poursuivre sur toute l'étendue des territoires nationaux congolais. C'est donc une interpellation à l'INPC, à toutes les parties prenantes qui interviennent dans l'environnement, merci, dans le paysage médiatique congolais, de veiller à la vulgarisation. Il en est de même pour parce qu'il est difficile de concevoir le fait pour nous, journalistes, de défendre la liberté de la presse sans connaître même la loi qui l'organise en République démocratique du Congo.
Transmet ce que
nous devons faire en sorte que nous puissions adoucir, assouplir, alléger la tâche aux radios. Je parle ici de l'asphyxie fiscale. Au niveau les médias en souffrent terriblement.
Merci, patient, on a compris.
Ils sont dans des villages et qui ne sont pas en mesure de mobiliser 1 000 dollars le mois, mais à qui on exige de payer 4 000, 5 000. Merci. Aujourd'hui, il y a des médias auxquels on exige de payer 15 000 dollars après 4 mois d'ouverture. Nous pensons que c'est impassable. C'est pour cette raison que la liste doit continuer et nous encourageons et félicitons gestion, tous ceux-là qui ont concouru à ce que la loi aujourd'hui, la RDC se dote d'une loi qui va réglementer la profession et la liberté de la presse.
Merci, le message est passé. Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, vous êtes spécialiste des droits de la presse et de la lutte pour la dépénalisation des délits de presse. Et pensez-vous que la nouvelle loi sur la presse congolaise pourrait, n'est-ce pas, contribuer à l'épanouissement de la liberté de la presse en RDC?
Tout à fait, tout à fait. Et c'est même l'occasion pour féliciter Monsieur le ministre de la Communication et Médias, qui a pu quand même parachever ce chantier qui a commencé depuis très très longtemps. En 2007, on avait déjà fait un première ébauche d'un texte en même temps que le texte organique de du CESAC. Mais il reste, comme disait tout de suite Gabi Kouba, un certain nombre de tâches à parachever pour le bon achèvement de l'opérationnalisation de ce texte. Il y a par exemple des arrêtés interministériels qui doivent être pris pour et qui sont prévus par le texte de l'ordonnance loi pour réguler cette question de la fiscalité, de la parafiscalité à laquelle l'intervenant de tout de suite débat a fait allusion. C'est déjà très très bien que cette ouverture soit offerte, mais aussi il faut absolument mettre en cohérence un certain nombre des textes du secteur, notamment la loi organique de 2011 qui régit le CESAC, par rapport aux innovations actuelles.
Merci.
Et des innovations qui, pour la plupart, accordent au CESAC de nouvelles attributions, notamment en matière de régulation de médias en ligne et de régulation de médias associatifs communautaires et confessionnels.
Merci, merci.
Je crois que c'est un bon départ pour le moment. Tout n'est pas parfait, mais c'est déjà une très très belle initiative pour laquelle on peut remercier le ministre et le chef de l'État qui a appuyé le processus.
Merci à Gabi Kouba, Patient de Baba Loufira et Maître Charles Mouchizi d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Alain Ngoy qui était la technique et à Dona Madimba et Kelinkoute qui l'ont réalisé sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite du programme sur Radio Capi.